Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets de campagne sont dans le Bas-Rhin, en Alsace, cette semaine. Et aujourd'hui, nous causons des lieux d'aisance, des commodités. Ma grand-mère disait « Wawa », ça me fascinait. Bref, les toilettes utilisent de l'eau potable. C'est une aberration, je ne vous apprends rien. Et on va se demander aujourd'hui comment progresse le marché des toilettes sèches en France. À Schlettigem, près de Strasbourg, une entreprise pionnière en la matière constate une accélération des ventes et des locations, signe d'une prise de conscience. Mais d'abord, un prix littéraire très important. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Deux votes très importants sont prévus début juin. Les élections européennes, bien sûr, le 9 juin. Pensez à vous inscrire en ligne sur la liste électorale. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, vous avez jusqu'au 1er mai pour le faire. Mais un autre scrutin est prévu, lui, le 3 juin. Des enfants du CP au CM2 voteront pour leur livre écolo préféré. Bonjour Daniel Fournier.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes la coordinatrice de ce prix du livre Jeunesse Écolo qui existe depuis 7 ans. Il est organisé par l'association Felipe qui porte aussi le festival du livre et de la presse d'écologie. Alors 500 élèves participent cette année. Ils voteront en classe le 3 juin. Ils sont partout en France ?
Ils sont partout en France et on tient beaucoup justement à une diversité de régions, notamment entre Paris, Lyon, Marseille, mais aussi en campagne. Par exemple, nous avons une école dans le Luberon, une autre dans le Couserans, une autre dans la Sarthe, etc. Et ce sont souvent des classes uniques, donc dans des contextes différents, ce qui permet des échanges entre les classes qui sont, de notre point de vue, indispensables et fructueux.
Combien de bouquins leur avez-vous fait lire ?
Nous leur proposons, parce qu'ils ne sont pas obligés à tout lire. On espère bien sûr qu'ils vont tout lire. Mais chaque enfant a une voix. Mmh. Et sur le bulletin de vote, il va noter le nombre de livres qu'il a lus. Ah. Parce que voilà, il y a différentes personnes, différents rythmes. Et donc, nous leur proposons une sélection graines de lecteurs avec 6 livres et une sélection, pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, CE2, CM2, de 6 livres aussi.
D'accord. Est-ce qu'on a plus de voix quand on a lu plus de livres ?
Exactement.
Alors, je ne peux pas citer malheureusement tous les livres sélectionnés dans cette édition 2024, mais on peut donner quelques titres. Il y a notamment « Le goût de la tomate », un roman de Christophe Léon aux éditions Sinbad Jeunesse. C'est l'histoire d'un monde dans lequel les jardins ont disparu. Il est interdit de planter, de cueillir, de récolter. Un père et son fils vont braver cet interdit et semer des tomates. On trouve aussi « La chanson de l'étourneau » d'Octavie Walter. C'est un très joli bouquin aux éditions Rue du Monde. Ou encore « Le faiseur de nuages » de Yacouba Sadawago, l'histoire vraie d'un homme qui plantait des arbres pour lutter contre l'avancée du désert dans son village burkinabé. Quelle est la raison d'être de ce prix, au fond ? Il s'agit de sensibiliser les enfants à la protection de la biodiversité ?
Oui, on pourrait se définir comme des activistes de la lecture. Notre idée, c'est de faire découvrir, faire mieux connaître la nature et nos environnements dans leur diversité, aussi bien les dangers que les beautés, voilà, pour préserver la planète. Et moi, souvent, quand je présente le prix dans les différents groupes d'enfants, je leur demande « alors c'est quoi l'écologie ?» Ben, très vite, ils disent « c'est soigner la planète ». Et quand on en arrive là, on se dit qu'on n'a pas perdu notre temps, surtout si c'est fait de manière ludique, si on arrive à développer des émotions à partir des lectures qui sont faites.
Les lauréats de ce prix reçoivent 500 euros, je crois. C'est impressionnant pour les enfants de décider qui va toucher une telle somme.
Oui, surtout, c'est moi qui le leur dis quand justement je présente le prix. Et là, je suis sûre de leur étonnement et leur emballement pour le prix, parce que dans un premier temps, ils vont penser que c'est pour eux. Bon, je les détrompe vite.
Ils sont très déçus, du coup.
Voilà, donc on n'est pas dans cette logique-là, mais c'est important aussi de faire reconnaître le travail des écrivains, des illustrateurs, et d'ailleurs nous les faisons intervenir dans tout chacun des groupes. Nous avons des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices qui interviennent justement pour travailler avec les enfants, les rencontrer, échanger, voilà.
Quel retour avez-vous ? Qu'est-ce que ça apporte aux élèves, ce prix du livre écolo ?
C'est difficile donc d'avoir une seule idée, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des retours pas plus tard que ce matin de deux interventions. L'une qui a eu lieu dans le Luberon avec un auteur qui a écrit L'homme de fer, Thibaut Bérard, et avec le livre dont vous avez parlé, Le goût de la tomate de Christophe Léon, qui lui est intervenu dans le Couserans, en Ariège. Et à chaque fois, j'ai reçu des mails enthousiaste avec des photos des instituteurs, institutrices qui vont continuer sur la lancée qui a été proposée justement par ces interventions.
Beaucoup d'enthousiasme donc.
De l'émotion aussi, et puis de la discussion.
Les inscriptions sont-elles ouvertes pour l'année prochaine s'il y a des profs que ça intéresse parmi ceux et celles qui nous écoutent ?
Bien sûr, notre appel à projet, je dirais qu'il est quasi permanent. Alors évidemment, pour l'année prochaine, pour le prix 2025, notre appel à projet figure déjà sur notre site internet.
Et on met un lien, bien sûr, sur la page des carnets de campagne, sur le site de France Inter. Le prix du livre jeunesse écolo, édition 2024, c'est donc le 3 juin pour l'élection. Et je ne manquerai pas, bien sûr, d'annoncer à ce micro les livres lauréats de cette année. Merci beaucoup, Daniel Fournier.
Merci beaucoup, Dorothée.
France Inter. Carnet de campagne.
Il est toujours un peu désespérant de penser que quand on tire la chasse d'eau, c'est de l'eau potable que l'on vient d'utiliser. Selon les estimations de l'ADEME, ça représente 20% de notre consommation d'eau. Les toilettes sèches sont une alternative bien connue. Eh bien, voici une entreprise alsacienne qui fabrique, qui vend et qui loue des toilettes sèches. Elle s'appelle Ecoterre. Aurélien Klingelschmidt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Schlittigheim, tout près de Strasbourg, responsable d'activité de cette entreprise Ecoterre. Comment progresse le marché, dites-moi ? Est-ce que vous avez l'impression que les mentalités évoluent en France sur le sujet des toilettes sèches ?
Bah ouais, ça évolue bien depuis la création de l'activité. Donc c'était en 2007, à l'époque c'était une association. Bah à cette époque-là, il y avait que des gens très informés qui savaient ce que c'était. Quasiment personne n'était au courant. Et puis on avait été sollicité par la forêt Ecobio de Colmar pour développer une animation autour de ça. Et puis, de fil en aiguille, on a fait de plus en plus de cabines. Ça a été suffisant pour créer l'activité en SARL. Et les demandes, elles vont croissantes parce que les gens se rendent compte que la ressource en eau, elle est importante et que finalement, faire ses besoins dans l'eau potable, c'est un peu marche un peu sur la tête.
Donc, vous percevez une accélération des ventes ou au moins des locations pour les événements publics ?
Oui, tout à fait, ouais. De collectivités publiques pour des événements, des marchés aux puces, des marchés de Noël, des concerts, des événements festifs, culturels, ça se développe beaucoup, y compris pour les particuliers, des mariages, des anniversaires qui ont lieu dans des lieux atypiques ou alors au domicile des gens, mais ils n'ont pas assez de toilettes pour pouvoir recevoir correctement leurs invités. Donc ça va dans le bon sens, et particulièrement sur le secteur des chantiers du BTP, où on a l'habitude de voir des cabines en plastique, souvent des cabines chimiques au bord des routes. Et il y a pas mal d'entrepreneurs qui font le choix d'aller vers une solution écologique comme ce qu'on propose et de proposer un équipement parfois plus confortable en bois, qui est esthétique à leurs ouvriers, et c'est chouette.
Plus confortable, en effet, plus écologique, mais aussi plus cher.
Alors, il y a une petite plus-value. C'est vrai que nous, on fait des toilettes autonomes qu'on dit à litière. C'est-à-dire qu'on fait ses besoins normalement, mais au lieu de tirer une chasse d'eau ou d'utiliser des produits chimiques, on utilise des matières végétales, copeaux de bois, paille de lin. Et le but, c'est de proposer une solution de toilette mobile et fixe, plus confortable, avec moins d'odeur, et de valoriser les résidus. Et ce côté de valorisation des résidus, pour nous, ça passe par du compostage et de la méthanisation. Et pour l'instant, ça a un coût, et on l'explique à nos clients qui, en général, sont OK de dire, plutôt que d'aller polluer les stations d'épuration, les cours d'eau, parce qu'on peut pas encore tout filtrer les résidus dans les toilettes, on va mettre le prix et on va en faire une ressource, quoi.
Voilà, les résidus que vous récupérez, donc les matières fécales et l'urine, pour le dire clairement, ils sont tous revalorisés aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est en voie parce qu'il y a des nouvelles solutions qu'on est en train d'essayer de développer. Alors, en plus de la valorisation qu'on fait déjà actuellement, on est en train d'essayer de mettre en place une valorisation avec le monde agricole. On fait partie du réseau d'assainissement écologique, le RAE. Donc, c'est un collectif d'associations, bureaux d'études, artisans, entreprises, qui sont tous actifs dans la promotion et la mise en œuvre de systèmes d'assainissement écologique, dont les toilettes sèches. Donc, pour faire simple, les plantes, elles ont besoin de nutriments pour leur croissance, dont les trois principaux, azote, phosphore, potassium, qui sont présents à des degrés variables dans nos urines. Et aujourd'hui, les engrais azotés, ils sont majoritairement synthétisés à partir de l'azote présent dans l'atmosphère. C'est très énergivore, ça représente plus de 2% de la consommation énergétique mondiale. Et les engrais phosphatés et potassiques, ils sont majoritairement issus des mines. C'est donc des ressources non renouvelables avec des stocks limités. Donc nous, en mangeant, on absorbe une partie de ces nutriments qu'on va ensuite rejeter dans nos toilettes et qui vont aller dans les stations d'épuration. La majorité va être rejetée vers les rivières et causer des pollutions et un gâchis de cette ressource. Donc il y a un vrai enjeu autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la circularité des nutriments. L'objectif, c'est de tenter de refermer un peu une boucle pour dépendre moins de solutions énergivores ou non renouvelables et moins polluer les eaux. Donc Écoterre, on participe modestement à ce projet en démarrant en parallèle de nos solutions de valorisation un programme de recherche. Dans un premier temps, on analyse nos urines qu'on collecte pour vérifier leur composition, leur innocuité et pour démarrer un pré-traitement. Et dans un second temps, on va initier un projet de valorisation avec des agriculteurs alsaciens qui nous ont sollicités, avec lesquels on souhaite travailler. Donc on est appuyé pour ça par des étudiants de l'ENGES, l'école de l'eau de Strasbourg, et on est à la recherche de nouvelles collaborations pour progresser là-dedans.
Sur ce sujet-là, celui de l'utilisation de l'urine humaine comme fertilisant agricole, il y a pour le coup un petit chemin à faire en termes de mentalité encore, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Il y a une révolution culturelle à mener pour accepter un peu ce que, par ailleurs, on est tout à fait, alors peut-être souvent on se pose pas la question, mais apte à accepter sans savoir que les lisiers des animaux qu'on élève, parfois dans des conditions industrielles et avec beaucoup de produits médicamenteux, phytosanitaires et autres, et qu'on va allègrement répandre sur les champs sans trop se poser de questions, c'est très bien parce que c'est aussi une ressource en azote, c'est aussi quelque chose qu'on a besoin. Mais quand il s'agit d'urine humaine, là on se pose beaucoup de questions, alors même que les taux sont peut-être un peu inférieurs. Il y a beaucoup d'études qui sont faites actuellement, et pour l'instant, ça semble aller dans le bon sens en termes d'innocuité, mais il y a encore un chemin à faire dans les mentalités pour que ça aille dans le bon sens, quoi.
Oui, le fumier humain, les gens ne sont pas encore prêts, quoi.
Ouais, le lisin, on va appeler ça, effectivement.
Alors, je précise que les toilettes que vous louez chez Écoterre, c'est vous qui les fabriquez aussi, avec un ESAT qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Quelle matière première utilisez-vous ?
Donc, oui, on travaille effectivement avec l'ESAT, l'APH des Vosges du Nord. On se fournit en mélèze des Vosges pour l'ossature de nos cabines. On essaye d'avoir une logique un peu écologique dans tous les process qu'on va mettre en place. Ça nous permet aussi d'avoir des cabines qui sont très robustes et qui ont une durée de vie très longue, ce qui réduit encore leur impact.
Vous avez aussi toute une réflexion, je crois, sur les inégalités hommes-femmes en matière d'accès aux toilettes.
Oui, on essaye de sensibiliser les organisateurs d'événements autour de ces questions, notamment sur les fameuses files d'attente interminables que tout le monde a pu constater sur les événements. Et donc, on essaye de sensibiliser les organisateurs. Il y a plusieurs solutions selon les événements. Proposer des toilettes mixtes non genrées, augmenter le nombre d'équipements pour femmes s'il y a une séparation qui est souhaitée. Et puis aussi, proposer des solutions un peu novatrices, comme des urinoirs féminins. Donc, un urinoir féminin, ça ressemble à un bidet. Ça permet d'utiliser de dos en position squat, ce qui est un peu la position que 4 femmes sur 5 adoptent déjà dans des WC publics par mesure d'hygiène. Et là, c'est plus adapté à la morphologie et donc... plus rapide et plus hygiénique.
Et donc, ça réduit le temps d'attente.
Tout à fait.
C'est la révolution des toilettes, finalement, tout ça.
Eh bien oui, espérons que ça se poursuive.
Merci beaucoup, Aurélien Kingelschmidt. L'entreprise Écoterre, c'est donc à Schlittigheim. Bonne journée.
Merci à vous, bonne journée, au revoir.